Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et avec... Au menu des débats du jour, eh bien, ce PSG. Le PSG, ni qualifié, ni éliminé. Le point ramené de Naples hier soir offre encore aux Parisiens la chance de se qualifier en huitième de finale. Leur prestation de qualité en Italie, conduite par un très grand Neymar en première mi-temps, peut les aider à gagner leurs deux derniers matchs. Seule possibilité de finir aux premières places de ce groupe. Les Reds ont un peu aidé le PSG en perdant à Belgrade. Résultat, les quatre équipes de ce groupe peuvent toutes rêver de continuer l'aventure européenne. Le Barça déjà qualifié grâce à son match nul obtenu à Milan et au premier but de l'ancien Bordelais Malcolm. Hier soir, deux équipes éliminées, le Lokomotiv Moscou et Monaco. L'équipe de Thierry Henry a enregistré une nouvelle défaite face au FC Bruges, une humiliante défaite au Stade Louis II, très inquiétante à SM. Pour l'Olympique Lyonnais, une qualification ce soir à portée de main face à Hoffenheim. Les hommes de Bruno Genesio doivent pour cela gagner leur match. Mais de la part de Fekir, Depay, Aouar ou Ndombele, on peut s'attendre à tout, le meilleur comme le pire. Alors que le Real Madrid testera son entraîneur intérimaire en Ligue des Champions, Santiago Solari, face au club de Pilsen, battu à l'aller. À Bernabeu et puis au Juventus Stadium, les supporters attendent le face-à-face entre leur Juve et Manchester United et le retour pour quelques heures de Paul Pogba. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets, Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Dominique Sévrac face à vous, Paris.
Bonjour.
Paris face à Marseille.
On supporte Paris en Coupe d'Europe, j'imagine.
Absolument.
Voilà,
bien sûr.
Et puis Chérif Guémour pour faire le shérif entre dans ce classico. Bonjour Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Éric Mamrud, bonjour.
Allez Saint-Étienne. Désolé. Bonjour tout le monde.
Éternellement vert.
Argentine.
Radio Foot, c'est parti.
Mbappé qui est dans la surface de réparation, qui essaye de se défaire de son défenseur, qui s'en prend en retrait, et derrière le but, l'ouverture du score parisienne, elle est signée Bernat. Penalty, il a percuté José Calleiron, effectivement, il s'était infiltré dans la surface de réparation, Calleiron.
Insigné qui va tenter d'égaliser pour le Napoli. C'est lancé Insigné, il marque. Il était parti du bon côté Buffon, mais au ras du poteau. Lorenzo Insigne remet les deux équipes à égalité, un but partout.
C'est presque fini.
Ouais, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini et on va donc en rester là sur ce un partout ici au stade San Paolo.
Vous les avez reconnus, Olivier Pron et Christophe Jousset, qui nous ont fait vivre hier soir ce match sur les antennes de RFI. Alors, Gigi Buffon, à la suite de ce match, a écrit sur son compte Twitter « On est sur le bon chemin, il faut y croire, toujours ». Le Paris Saint-Germain peut effectivement toujours y croire. La dispute dans ce groupe promettait d'être difficile, elle l'est. À ce jour, les quatre équipes pourraient se qualifier. Le match d'hier et son score nul de 1-1 a en tout cas projeté Naples en tête du groupe et laisser Paris à la troisième position. Le PSG déçu du résultat et de ne ramener qu'un seul point d'Italie, comme l'a dit Julian Draxler au micro de Christophe Jousset.
On a joué bien. La première mi-temps, c'était très bien. On a eu beaucoup de positions, mais deuxième mi-temps, on a mal commencé. Il y avait de grandes occasions pour Naples. Malheureusement, c'était hors jeu avant penalty. Et là-bas, Juan, c'était penalty pour nous, mais on a bien joué. Mais on est déçu parce qu'on n'a pas gagné. Il faut continuer comme ça et améliorer parce que c'est un groupe difficile avec Liverpool qu'ils ont perdu aujourd'hui aussi. C'est pas fini, on va continuer.
Alors une question au sujet de ce match, parce que on peut voir, comme on disait en préparant l'émission, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Comment juger la prestation de Paris? Elle était-elle bonne ou mauvaise selon vous, Dominique Sévrac? Parce que
bonne, y a les deux, hein.
Bonne pour avoir résisté, ben oui, pour non, avoir résisté à Naples et marquer un point, ou mauvaise pour finalement n'avoir pas gagné, ne s'être pas déjà assuré pratiquement une place en huitième de finale.
Bon, je vais dire bonne parce que la saison du Paris Saint-Germain pourrait être terminée ce matin. C'est-à-dire qu'il pourrait être éliminé de la Ligue des Champions, déjà champion de France comme tout le monde le sait. Donc ça serait presque un fiasco. Donc je veux dire que c'est une bonne performance. Après, on peut être déçu du scénario parce que Paris menait. On peut être déçu de l'arbitrage qui a un penalty oublié sur Bernat. Et puis on peut être déçu de la seconde période du Paris Saint-Germain, de Neymar, du manque. Ils n'ont pas mis la même implication. On a senti un PSG très très sérieux en première période. Donc bon, ça reste globalement positif. Comme
on va revenir sur les points que vous avez développés, Dominique. Mais alors pour vous, plutôt positif. Et pour vous, Marc ?
Négatif.
Oui.
Non, mais parce que ce qui est dommage, c'est que le PSG avait les moyens, au vu de la première période, de continuer à travailler dans ce sens-là et d'aller chercher le Napoli, de les perturber. Parce que
c'est Naples qui est venu les chercher, en fait.
Ben, c'est Naples qui est venu les chercher parce que Paris a fait en sorte qu'on vienne les chercher. C'est-à-dire que si Neymar décide de ne plus jouer la seconde période, de plus faire le porteur d'eau et de ne plus travailler avec le groupe, c'est sûr qu'à 10 contre 11, ça ne marche plus. On a vu directement l'écart, puisque Neymar a choisi, sur la première période, de faire le boulot, de faire les efforts avec Mbappé, avec tous les joueurs, et puis parfois il s'assoit dans le vestiaire, il se dit ah ben finalement moi je suis pas un porteur d'eau, moi je suis la star, il faut que je brille, donc je vais pas courir. Sa seconde période est catastrophique et malheureusement il met tout le monde dedans, il met tout le monde à bout, Verratti, tout le monde s'énerve à partir de là. Et en contrepartie, on a 25 minutes où le Napoli reprend le dessus puisqu'il y a un joueur en moins qui fait les efforts en moins et qui travaille en moins, et puis à l'arrivée ça ne serait, donc c'est plutôt pas mal, mais à l'arrivée pour moi c'est raté.
Peut-être qu'il y a plus les jambes, Marc, hein, c'est pas forcément.
Non, on peut pas l'entendre sur, c'est le match le plus important, on l'entend sur ce genre de match. Aujourd'hui on est dans la course au Ballon d'Or.
Peut-être.
Oui, mais je peux pas l'entendre.
Mais pourquoi n'aurait-il plus de jambes, Dominique ?
Pourquoi
parce
et comment ?
Parce qu'il a été blessé, parce qu'il est revenu.
Alors quand on est blessé, excuse-moi.
Pour la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, il était complètement hors du coup.
Oui. Voilà. Enfin, depuis la Coupe du Monde, il y a 4 mois qui ont passé.
Ouais, mais
Dominique, quand on est blessé.
Il y a le contre-coup de la Coupe du Monde, il y a tout ça. Et on voit bien depuis le début de saison qu'il n'a pas la caisse dans certains matchs.
Quand on est blessé, on va pas se balader au Portugal avec ses copains, on va à Barcelone faire la fête. Non, je suis désolé, je peux pas l'entendre. Mais il y a un problème. On peut pas faire ça. On peut pas arriver face à, c'était quoi ce week-end avec le masque tous les deux à faire les ding-dong, ding-ding-ding, on est rigolo. C'est pas possible. Un match important. Verratti la semaine dernière qui fait l'imbécile aussi. C'est pas possible à ce moment-là.
Pas comparer le Paris qui se déguise avec quelqu'un qui est arrêté avec un taux d'alcoolémie au-dessus
non,
de la,
non, mais
au-dessus
c'est
de la,
bon.
La norme.
Dans ce sens-là, Dominique, c'est pas possible. Il y avait un match très important. Ils ont répondu présent sur une, sur la seconde.
Déguisé et
on n'est pas. Je suis d'accord. C'est juste que chacun fait ce qu'il veut.
Shérif, pour vous, c'est plutôt une bonne opération ou plutôt une mauvaise opération?
Ah, c'est pas la même question. Est-ce qu'ils ont été bons ou pas bons?
Non, oui. Pour moi, c'est le meilleur. Une bonne prestation ou une mauvaise prestation?
Oui, j'ai vu le meilleur match de Paris depuis le début de la saison. Bon, il y a eu le match contre Belgrade. Bon, 6-1, bon ok, puis après il y a la L1 qui reste la L1. Là j'ai vu à quoi pourrait ressembler une bonne équipe de Paris. Elle a pas tenu toutes ses promesses pendant 90 minutes. Première mi-temps c'est impressionnant, c'est la maîtrise collective, ils sont bien placés, ça fonctionne, on commence à avoir un peu l'idée que Tuchel. En deuxième mi-temps, bon, ils ont reculé, ils sont désunis, je vous rejoins, pas de problème, Neymar qui fait son numéro. Après, ceci dit, il y a un petit temps fort quand même par moment en deuxième mi-temps, il y a quand même Mbappé qui rate la balle du 2-1, on se demande comment il la rate. Donc moi c'est le meilleur PSG que j'ai vu depuis le début de la saison, donc pour moi c'est une bonne prestation, une bonne prestation, c'est un bon match. Maintenant, est-ce que c'est une bonne opération? Non, c'est pas suffisant. Mais alors, on va revenir quand même sur ce groupe. C'est assez étonnant, en Ligue des Champions, au bout de 4 journées, c'est les équipes qui se tiennent pratiquement en 6 points.
Il y a 2 points entre le premier et le...
Oui, mais les deux premiers, tu vois, en 4 matchs, ils ont que 6 points. C'est pas,
oui,
c'est pas très, très,
c'est normal que tout le monde en abandonne, quoi, en fait.
Ouais, mais tu vois,
c'est bien si le groupe est équilibré.
Tout le monde,
ouais, il est équilibré, mais ça fait pas beaucoup de points non plus.
Alors, ce qui est inquiétant dans ce que tu dis, c'est que si t'as vu un bon pari et qu'il est capable de faire qu'un partout à Naples, c'est inquiétant, parce que si le meilleur pari fait qu'un partout, qu'est-ce que ça, voilà.
Ah, mais quand je dis que c'est le meilleur pari.
Non, il dit le meilleur pari depuis le début de saison.
Depuis le début de saison.
Tu parles de la Ligue des Champions, là.
Ouais, voilà. Ah non, depuis le début de saison.
Ah non, c'est pas possible. En championnat, ils ont fait de très bonnes performances. Sur certains matchs, ils ont été très bons.
Là, c'est à Naples. Pour moi, je l'avais dit la semaine dernière.
Mais ils ont contenu, Naples, ils ont contenu pendant une période. Paris a joué à la perfection. C'était pas, c'est
en
pas de l'amour, mais c'est magnifique.
Parlant, non,
mais
c'est de la prestation. Une chose peut-être que vous auriez noté, Shérif, c'est ce but, ce très beau but qui a été décortiqué par certains de nos confrères, le but de Juan Bernat. 21 passes entre le début de l'action et la conclusion. tous les joueurs parisiens de l'effectif ont touché le ballon et pour que ce soit Juan Bernat qui le conclue en 1 minute 05.
Ils sont tous en mouvement, ils sont tous en rotation, il y a les accélérations, mais il y a aussi les actions qu'ils ont fait en trois passes. Hein. Attention, il y a eu des remontées de balles en trois passes sur les côtés notamment. Donc non, mais c'est ça qui est bien.
C'était la première mi-temps effectivement, parce que ça conclut
en fait,
la première mi-temps.
On est à Naples quand même, là. Je veux bien qu'on parle de comment on s'appelle, de l'étoile rouge, 600 au parc et tout ça, d'accord, les matchs contre Amiens, tout ça, on peut en parler très bien, on a eu des très belles choses. Là, c'est là qu'on les attendait hier soir. Par contre, j'étais un peu surpris par la tactique un peu frileuse du Napoli en première mi-temps. Mais moi, je croyais qu'ils allaient refaire le jeu comme ils allaient faire au parc. Et visiblement, ils l'ont pas fait. Alors, c'est peut-être un choix d'Ancelotti. Et deuxièmement, peut-être qu'ils ont été aussi très, très gênés par Paris. Et ce que j'ai aimé dans Paris, c'est qu'ils ont joué sur deux registres aussi. Sur la possession et sur le contre. C'est bien, c'est
la transition rapide.
Voilà, mais moi
on
je veux bien critiquer Paris quand il est critiquable, mais quand il y a du bon, il faut le dire.
Eric,
la possession, oui, surtout en première période, en tout cas au total 56% de possession voilà. Pour le Paris Saint-Germain, même si de nos jours, ça veut plus dire.
Oui, c'est une possession qui ronronne pas, Eric. Ouais. C'est une possession vraiment vers l'avant.
Ouais, active. Voilà. Au niveau des tirs cadrés, 3 pour Paris, c'est pas énorme, hein, et 5 pour Naples, qui effectivement, en deuxième période, là, effectivement, a...
Ils ont un gros temps fort,
poussé.
Mais après, bien sûr. Ouais.
Alors après, on peut quand même regarder que, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que fait le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, chez les gros? Depuis toutes ces années, chez les grosses équipes. Alors, parce que le constat, il est là. Mais quand est-ce qu'elle va faire, cette équipe, une grosse perf, en Ligue des Champions chez un gros? Ça a existé. Il y a, en fait, il y a eu une seule victoire depuis 2013 chez un gros sur, 12 tentatives, une victoire de nul, 9 défaites, que ce soit à Liverpool, au Real Madrid, à Barcelone, au Bayern, un nul à Arsenal, tiens. Manchester City, encore la défaite. Barça, défaite partout, tout le temps. Donc on est sur le niveau du Paris Saint-Germain. La victoire, elle est à Chelsea. Ouais. Vous savez, en huitième de finale, il y a deux ans. Donc là, on est dans la constante. Ce qu'on attend, c'est le jour où paf, on aura la grosse perf du PSG. Elle arrive toujours pas. On y était presque, mais non, toujours pas.
Justement, cette grosse performance, à quoi on va essayer déjà de voir les points positifs qui auraient pu mener à cette performance. On parlait de cette première mi-temps. Il y a peut-être ces choix assez forts de Thomas Tuchel, à la fois cette défense à 3 et puis d'avoir laissé Cavani et Rabiot sur le banc. Dominique.
Il est en train de trouver son système, son équipe. Donc c'est un 3-4-3, c'est une défense à 3, ce qu'il voulait installer depuis le départ. C'est aussi pour ça que Kerrer est venu, Kerrer hier jouait. Pape Kimpembe qui sortait d'une suspension au championnat, donc qui sans doute il manquait de rythme dans l'esprit de Thomas Tuchel. Son dernier match c'était le match aller contre Naples. Donc voilà, il trouve que Rabiot sans doute manque d'implication en général, pas forcément que dans la vie de groupe, parfois aux entraînements. Donc il a choisi Draxler. Je sais pas si c'est un choix définitif ou c'est un choix du moment. Voilà, donc je pense qu'il a trouvé son 11 avec deux interrogations. Quid de Cavani? Je suis pas sûr qu'il soit exclu, Cavani, du 11. Et quid de Rabiot? Alors après, ça veut dire qu'il faudra enlever ou Di Maria.
Le poste de gardien aussi, il y a un choix fort quand même.
Alors oui, alors là il était encore dans la rotation, il explique qu'il est encore dans le choix de période, donc Buffon a joué Lille, Naples et sans doute Monaco ce dimanche, et après on va retrouver Areola, donc il faut calculer sur le 28 novembre le match contre Liverpool.
Qui ça sera?
C'est des séries 3, donc j'ai pas le calendrier en tête, mais il faut calculer. Après si c'est Buffon contre Liverpool, là ça veut dire qu'il aura fait un vrai choix.
Les choix de Tuchel, Marc, est-ce que ce sont des choix qui selon vous sont amenés à durer et qui sont des choix forts qui ont justement conduit à cette bonne première mi-temps?
Moi je trouve que sur la première période c'est le système est très bien mis en place, les hommes sont dans le bon tempo, c'est parfait. C'est-à-dire que Cavani, malheureusement, dans ce système-là, malheureusement, il ne peut plus rentrer en jeu. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que j'adore Cavani. Maintenant, est-ce qu'il va falloir toujours jouer à 3-4-3 face à d'autres équipes? Parce que là, on a quand même une équipe de Naples que l'on craint, quoi qu'il arrive, parce qu'on a vu qu'au parc, elle est capable de faire des choses. Mais si Paris est capable de tenir la dragée haute avec ce système de jeu et ces joueurs-là, parce que quand même hier, il faut quand même se poser la question que le meilleur joueur du PSG, c'est quand même Bernat. Mm-hmm. D'accord? Donc on achète des joueurs. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Et puis il a été élu, je crois, l'équipe aussi a mis la meilleure note. De partout, il est référencé. Donc posez-vous les bonnes questions. C'est Bernat le meilleur joueur. Donc on dit, bon, ok, d'accord. Moi, j'ai rien contre lui. Je pense qu'il n'est pas au niveau de cette grande équipe du PSG. En tout cas, hier, lui, il a été au niveau. Alors que j'attendais d'autres joueurs. Maintenant, dans son système de jeu, les choix sont forts. Les choix sont importants. Pour le rôle du gardien de but, je pense qu'à un moment donné, il faut asseoir une hiérarchie et dire c'est un tel ou un tel. Parce que c'est des rôles très importants pour marcher avec les deux centraux. et les deux latéraux. C'est très important. Buffon, on ne sait pas si forcément il va sortir plus vite que Areola. C'est des choses très importantes. Et je pense que, à un moment donné, il faut prendre des choix forts. Mais le choix fort va être déjà de Cavani. Qu'est-ce qu'on fait de Cavani quand il est à 100% et qu'il pourra jouer?
Alors Cavani, il a encore de l'avenir. Parce qu'il y a eu encore des centres dans la boîte hier qui n'ont pas trouvé preneur. Et c'est toujours la même chose. On parle des appels de Mbappé. Mais Cavani, sur le peu qu'il fait, il fait encore des appels. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, il n'est pas exclu. Il va rester. Il peut être encore utile. Peut même commencer les matchs. Sauf que le gros du jeu que développe Paris maintenant, c'est vraiment du jeu à terre, des 1-2.
De la verticalité pour aller très vite
beaucoup
devant.
De verticalité. Et dans ce jeu-là, notamment l'action du but, il a pas sa place.
Ce qui est pas normal, c'est que Paris est revenu avec 1-0 en deuxième période et ils auraient dû profiter de leur qualité de vitesse et de profondeur, sachant que Naples allait essayer d'égaliser. Et là, malheureusement, le temps fort, Paris n'en est jamais sorti. C'est quand on pensait qu'il en était enfin sorti que Thiago Silva commet cette boulette incroyable de
Ivry. Il avait contrôle.
Ivry son contrôle et après il fait penalty. Donc c'est dommage parce que
là c'était chaud depuis un moment quand même.
Oui, il y a pas. Paris commence à sortir la tête de l'eau et là une erreur de concentration de sa part et le gros de la tempête était passé quand même. Buffon avait fait ce qu'il fallait.
C'est vrai.
Et c'est quand on pensait que Paris allait repartir, mais je pense que Paris aurait pu exploiter ses qualités de contre. Et on voit bien que par exemple Koulibaly a été très très dur sur Mbappé, dur dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Hein. Koulibaly a fait un match exceptionnel, j'ai trouvé, comme au match au Parc. Ouais. Donc il faut aussi que Paris s'interroge sur. Marc parle de Bernat. Il faut aussi s'interroger sur le fait d'acheter des stars qui sont certes parfois performantes, mais il y a aussi des joueurs comme Alan au Parc que personne ne connaît ou Koulibaly
qui sont
capables de faire des grands matchs et qui sont pas des stars. Et on avait vu qu'à Liverpool c'est Milner qui avait dominé le milieu. Et il y en a pas des Milner au Paris Saint-Germain.
On parlait de ces points positifs et négatifs. Par exemple, on retenait aussi finalement Neymar, Shérif. Neymar a été tout à l'heure Marc le critiquait et puis. Dominique disait que ça pouvait faire partie du côté positif du match hier.
Non, mais je crois qu'on va être d'accord tous les trois. Quand Neymar en fait trop, quand il fait sa diva en deuxième mi-temps, là, on est tous d'accord qu'il va s'empaler.
C'est plus possible.
Voilà, qu'il va s'empaler sur
Rebecca. Il sert à rien en plus.
Voilà, il le fait une fois, deux fois, trois fois. Tu l'as dit, ses coéquipiers se sont énervés, on le voit aussi.
Il s'est énervé avec l'arbitre, M. Kuipers. C'est Mbappé qui a dû le calmer.
Voilà.
L'image est lunaire quand même.
Mais ça,
il se prend un jaune débile. Après, pour tout le reste, la façon dont il accélère le jeu, alors qu'il accélère, qu'il le ralentit. J'ai bien aimé, c'est en première mi-temps, quand il s'arrête pendant 10 secondes, mais il n'y a que Neymar qui a le droit de faire ça, qui peut faire ça, il s'arrête et tout. Finalement, il fait une passe en retrait. Tu dis, oui, mais il a le droit parce que c'est Neymar, parce que c'est du genre, ce soir, je vais vous mettre la misère. On aurait aimé qu'il soit un peu plus dans l'esprit d'équipe. Mais quand on parlait d'un jeu qui commence à se mettre en place, tout le monde le voit. Hein, c'est la façon dont il a de se trouver avec Mbappé, mais pas simplement avec Mbappé. C'est il garde pas trop le ballon, il sait. Tout est parfait jusqu'à ce qu'il se mette à jouer sa diva. Mais si ce Neymar-là, il arrive à se canaliser, à rester bien dans l'esprit il y a une chose aussi qui m'a plu, alors paradoxalement avec ce PSG, j'ai trouvé agressif dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ils font beaucoup de fautes, ce qu'on appelle les petites fautes techniques. Je sais, c'est pas très sport, ce que je dis, c'est pas très cool.
Mais, t'as le droit.
Voilà, les petits coups d'épaule, les petits croche-pattes.
À ce niveau-là, il faut
dire que ça s'appelle effectivement.
Ça, c'est bien, ça casse le jeu.
C'est l'héritage de Thiago Motta.
Alors, c'est bien. On parlait de l'arbitrage, vous aviez envie d'en parler. Non, mais pratiquement tous ceux qui sont sortis hier, les joueurs venus voir nos confrères, évoquaient ce thème. Alors, l'arbitre s'appelait Bjorn Kuipers. C'est un Néerlandais bien connu. Voilà. Bah oui, évidemment, parce que c'est un des bons de l'UEFA.
C'est pour ça qu'on en parle.
Et qui se retrouve là. Alors, les Parisiens, ils s'estimaient plutôt injustement victimes de ces décisions arbitraires, notamment autour d'un pénalty qui aurait pu être sifflé. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Écoutons Marquinhos.
On n'aime pas venir ici pour parler de l'arbitre parce qu'on sait que leur travail, c'est très difficile. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'était un peu trop. Il y avait des fautes au milieu de terrain. Son autre joueur, il ne donnait pas, il laissait passer. On a un pénalty clairement qui, même moi, de l'autre côté, j'ai vu que c'était un pénalty. Et lui qui était à 2 mètres, 3 mètres de la faute, il n'a pas vu. Et après, c'est difficile. On sait qu'il faut qu'on pense à nous. et on doit faire selon l'arbitrage parce que chaque fois en Ligue des Champions, on se fait manger.
Marquinhos, oui. Au micro de Christophe Jousset et d'Olivier Pron. Mais écoutons aussi Neymar, parce que Neymar, lui, il a pris un carton jaune et il a mis en cause aussi l'arbitre néerlandais, sans trop en dire.
Il m'a dit des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre de la part d'un arbitre. Je n'ai pas envie de répéter ce qu'il m'a dit, mais quelqu'un là-haut doit faire quelque chose. Il ne peut pas manquer de respect comme il m'a manqué de respect. Nous, sur le terrain, on nous demande du respect pour les arbitres. On doit avoir la même chose en retour.
Alors Marc, on ne sait pas ce que Monsieur Kuipers a dit à Neymar.
En
néerlandais ou peut-être en anglais, oui, ou peut-être en autre chose. En tout cas, le PSG est-il victime, on entendait Marquinhos dire, chaque fois en Ligue des Champions, est-il victime d'un arbitrage qui le défavoriserait en Ligue des Champions?
On va dire qu'ils ne sont pas aidés. Après, ce n'est pas à eux de parler, de venir, qu'ils nous expliquent le foot, le terrain, mais qu'ils ne nous expliquent pas. On est là, nous, on est là, justement, toutes les émissions, tous les plateaux, tous les forums, Twitter, tout le monde va raconter que l'arbitre, ok, ils sont me fait voler ceci, cela, mais c'est pas à eux de venir pleurer. C'est chaque fois le même problème. On nous raconte chaque fois les mêmes choses, mais c'est pas à eux
à
sortir ça.
Et vous pensez pas qu'il y avait pénalty sur Bernat?
Moi, je pense que malheureusement, il peut être accroché. Par contre, il sait pas jouer le coup. C'est un défenseur. Si c'est un attaquant, il vous le fait différemment. Croyez-moi, je peux vous assurer que c'est vrai. Alors, moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est vrai, il met la jambe en obstruction, mais il n'y a pas cette balayette. Donc, en fait, Bernat.
C'est ça le truc.
S'il n'y a pas la balayette, s'il y a la balayette, pour moi, il y a pénalty. Voilà. Et que j'ai l'impression que malheureusement, il met la jambe.
Il fait
pied. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue très mal le coup. Il vrille dans un sens, alors que c'est pas, je suis attaquant, donc je peux dire, c'est malheureusement, c'est pas comme ça. S'il a un petit peu plus d'expérience. Et là, c'était, j'ai envie de vous dire, c'était moche comme il est tombé. Et comme c'est moche, ben, l'arbitre ne prend pas. C'est ça le truc.
Et ça va très
bien. Mais il y a sûrement faute, hein. Il y a sûrement faute. Mais le problème, c'est que c'est tellement mal joué que on peut pas le siffler.
On peut siffler.
Et ça s'apprend, ça, à tomber comme il faut pour avoir.
Il y a certains qui.
Ou...
Oui,
non,
bah,
je suis d'accord. Je suis d'accord.
Il y en a certains.
On voit vraiment qu'il
y en a certains qui le pratiquent très bien.
Il fait le geste, comment dirais-je, de s'appuyer sur la jambe. Il va buter. Il fait exprès de buter. Mais on peut siffler penalty, oui, parce
oui,
qu'il y a quand même un geste d'obstruction. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant l'arbitre l'a pas sifflé. Voilà, c'est tout. Il l'a pas sifflé. Le jeu reprend. Puis
non, mais le problème avec Monsieur Cooper, c'est qu'il y a eu un antécédent à Chelsea. Il avait expulsé Ibra lors de la qualification de partout du Paris Saint-Germain avec.
C'était justifié quand même.
Avec Laurent Blanc.
Méchant,
non, il y avait pas faute sur Oscar. Non.
C'est la semelle qu'il lui met sur.
Non, justement, parce qu'il retire. Il retire sa jambe, mais il y a pas faute du tout sur Oscar. C'était déjà à l'époque.
Il l'a retiré pour pas être estropié à vie.
Non, mais il le touche pas. Il touche pas sur Oscar qui se roule pendant 10 minutes. Donc c'est, il y a une pression.
Mais c'était quand ça? C'était au XXe siècle ça?
Non, c'était en 2014. Donc 2014 alors, ou 2015. Non, c'était 2014.
Donc il y a un antécédent et cet arbitre s'acharnerait sur le Paris Saint-Germain?
Non, c'est pas ça. C'est juste pour expliquer le contexte. C'est qu'il avait fait cette énorme erreur d'arbitrage parce que Paris Saint-Germain était en prolongation, donc avait joué une heure et demie sans à 10 et réussi à se qualifier avec une tête de Thiago Silva. Donc voilà, c'est juste qu'ils étaient pas contents de le retrouver d'après ce qu'on a su et que c'était la première fois qu'il les réarbitrait donc en 4 ans donc et que donc voilà il y a ce ils sont pas à l'aise avec Monsieur Kuipers, mais Monsieur Kuipers est connu pour être plutôt un bon arbitre.
Dominique, est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il y avait eu l'arbitrage vidéo qui n'existe pas, on le rappelle, en Ligue des Champions pour l'instant?
Vu que c'est un des 4 cas de la VAR, l'examen du penalty, il y aurait eu les deux personnes dans le bus auraient dit
ça aurait changé quelque chose. Apparemment vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse.
Non, je peux pas préjuger s'ils auraient sifflé penalty, je peux pas préjuger si Neymar l'aurait réussi, donc je sais pas, mais
après l'arbitre reste décisionnaire. Les techniciens derrière la vidéo peuvent dire il y a penalty, puis l'arbitre dit non, on continue de jouer.
Complètement.
Voilà.
Après, je rappelle, au moins ils auraient examiné le dossier.
Ah oui, bien sûr. Mais j'ai même dit qu'on peut siffler penalty, donc je suis pas de mauvaise foi. Ceci dit, on pourra revenir sur l'action de Mbappé quand même qui rate la balle du 2-1. C'est pas une maladresse d'arbitre, là, c'est sa maladresse à lui.
C'est de sa faute. Et on est à la 80e à peu près. Il décale Kerrer le redonne. Et ça frappe passe à côté.
Voilà.
Je rappelle juste une banalité, c'est pas parce qu'on a un penalty qu'il y a forcément but. Hein. Faut le marquer encore.
Exactement.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pas préjugé que Neymar le marque.
Alors pour terminer sur le chapitre du PSG, et maintenant l'équipe emmenée par Neymar donc est toujours dans la course, encore maître de son destin. En tout cas, c'est ce qu'explique l'entraîneur Thomas Tuchel.
On a deux matchs et on peut gagner. Les deux matchs, c'est possible. C'est super dur et super difficile, mais c'est possible. Et si on fait ça, c'est sûr qu'on peut jouer dans le 8e finale. Ça, c'est le défi. C'est clair, mais c'est difficile. On peut voir ça. Le groupe est totalement serré et très, très difficile.
très très difficile. Donc gagner. Gagner. Eric, vous vous êtes amusé à faire des
pas tous les cas de figure quand même, parce qu'il reste deux journées. Reste deux journées, il y a quatre matchs, donc si on commence.
Quatre matchs.
Voilà, six points. Donc on a 26 minutes. Enfin, je vais pas faire tout sur 26 minutes.
Quand hypothèse numéro une.
Prenez vos cahiers, vos copies, je ramasse. Après. Je pars du principe que lors de la prochaine journée, Naples bat l'étoile rouge de Belgrade.
Je ne suis pas d'accord.
D'accord avec moi. Bon, voilà, ça ferait.
Mais ça sera
9
à Naples,
points.
C'est important de
voilà,
le dire.
Voilà, ce sera donc a priori Belgrade qui a pris 6 ans au part. Bon, bon, là, c'est
qui,
vrai,
qui
ils,
pas
ont,
bon
ils sont battus. Voilà, qui est pas bon.
Qui est plutôt
domicile,
bon à
on va en parler.
Qui a pris 4-0 à Liverpool.
Voilà. Donc, Naples, 9 points. À partir de là, il faut que le Paris Saint-Germain, qui en compte 5, gagne effectivement ses deux matchs suivants. Contre Liverpool à domicile et à Belgrade. Donc là-bas sur ce terrain difficile, si le Paris Saint-Germain ne fait que match nul contre Liverpool, là le PSG n'a plus son destin en main. Il faudrait que Naples, donc qui serait déjà qualifié, fasse un résultat à Liverpool lors du dernier match. Ça se jouerait donc à Anfield Road, Liverpool-Naples. Il ne faut pas que Liverpool batte Naples. À ce moment-là, c'est fini pour le Paris Saint-Germain.
Mission. Sachant que les deux équipes inconsciemment
peuvent
trouver s'arranger pour éliminer le Paris Saint-Germain.
Juste petite précision.
Donc, bien sûr que le destin reste entre les deux.
Bien sûr.
Petite précision. Si Naples et Paris sont à égalité, c'est Naples qui est devant, de fait de la différence de but particulière, puisque Naples a fait 2-2 au Parc des Princes.
Si Paris va pas à Liverpool, Paris n'ira pas.
Alors, justement, Dominique, Liverpool, incroyablement, hier, s'est incliné sur le score de 2-0 à Belgrade, face à cette étoile rouge qui avait jusque-là été étrillée, en tout cas, et par Liverpool, et même par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que cette équipe Red, vous avez vu, vous aussi, le match, vous a paru un peu, peut-être, pourrait être à la portée du Paris Saint-Germain ici au Parc, avec un trio Firmino, Sané et Sadio Mané, pardon, et Salah qui est un peu moins en réussite.
Firmino qui a débuté sur le banc, c'était Sturridge. J'ai cru voir le Paris Saint-Germain par moment. Il n'y avait aucune intensité, pas de duel, refus du combat.
Alors ça a donné un sacré match.
Non, j'ai cru voir ça. Le problème maintenant pour le Paris Saint-Germain, c'est que comme ils ont perdu à Belgrade et que le prochain match au Parc, ils vont pas refaire deux fois la même erreur. C'est-à-dire qu'ils vont revenir, ils vont arriver au Parc avec d'autres intentions. Ils sont un peu arrivés avec la suffisance au Maracana de Belgrade. Donc Sturridge jouait pas Firmino. Il y avait comme ça 2-3 changements effectués par Klopp en se disant bon, j'ai joué à Arsenal avec la grosse équipe en championnat.
Et ça a été dur. Hein.
Je vais faire un peu
ils n'ont pas été très bons face à Arsenal.
À Arsenal, ils n'ont pas été bons.
Ils n'ont pas été bons.
Mais le fil de la saison de Liverpool, il est compliqué à trouver parce que au début de la saison, ils ont été très forts, notamment contre Tottenham, tout ça.
4 matchs sans victoire. Très forts contre fin septembre, début octobre.
J'ai les résultats
suivi de 4 matchs sans victoire, 2 défaites, 2 nuls, suivi de 3 victoires, suivi de 1 nul et d'une défaite. Donc c'est les montagnes russes un petit peu. Il y a des périodes.
Donc juste pour finir, ça montre que Liverpool est prenable, cette victoire de l'étoile rouge montre que c'est prenable, sauf que j'imagine que dans 15 jours
eux aussi
ils jouent leur qualif, tout ce qu'on se dit ici au RFI de Liverpool, on se dit il faut absolument qu'on aille au Parc gagner parce que sinon on passera pas en 8e.
C'est vraiment pas un cadeau.
Et que le finaliste soit pas en 8e, ça paraîtrait bizarre. Donc de toute façon, on le sait depuis le début, il y a un gros va sortir.
Quelque part, c'est pas une bonne nouvelle qui
s'est battu empoisonné ce qui s'est passé hier. Tout le monde était content avant le match, moi j'étais pas content.
Donc non,
c'est vrai, c'est pas bon.
Ils vont venir au Parc là, clairement pour gagner, parce que de toute façon ils n'ont plus de choix, ils sont comme Paris, mais pour en venir à Liverpool, c'était ça. Ben, déjà on les a vus ce week-end contre Arsenal.
Surprenant.
C'est pas brillant, mais surtout quand on regarde les 7 matchs qu'ils ont fait contre des gros, je dirais. Donc c'est vrai, ils ont gagné à Tottenham en début de saison, mais c'était pas un grand Tottenham, on le rappelle, ils étaient 7-8e à cette époque. Là maintenant ils sont 4e, ils ont un peu remonté. Ils ont battu Paris dans la difficulté. Sinon, ils ont joué à Chelsea à domicile, ils ont perdu. Contre
dans ce coup de la Ligue.
Ouais, Coupe de la Ligue, mais quand même.
Ils ont fait un partout là-bas.
Ils ont perdu à Naples, et ils ont fait 0-0 à domicile contre Manchester City, et ils font 1-1 à Arsenal. C'est pas déshonorant.
C'est pas terrible.
Mais c'est pas terrible.
C'est pas
l'équipe finaliste. Après, le reste, quand on bat, West Ham, Dorsey, et tout ça, c'est
pas terrible. Et voilà. C'est à l'image de Mohamed Salah, qui, sert dans les stats, et à peu près sur les mêmes standards que la saison dernière, mais dans le jeu, il a pas retrouvé son aura.
Et il y a de la fébrilité en défense. Ils sont plus aussi inentamables qu'ils étaient.
C'est l'année où ils prennent un super gardien, où Joe Gomez remplace Lovren.
Et qui se plante et qui fait des caillades, ouais.
Donc,
qui pourra.
Donc rendez-vous, eh bien, ça sera le 28 octobre, novembre, 28 novembre prochain.
Si c'est le 28 octobre, c'est passé, on n'est pas bien parce qu'on ne l'a pas vu. Que...
Quoi ?
Mais elle 28 novembre prochain.
Je l'ai pas vu ce match.
Je l'ai pas vu. Au Parc des Princes, donc, avec les Reds qui se retrouveront face aux Parisiens.
Quel match ?
Et ça sera, oui, espérons.
Hein ? Ah, mais déjà,
tout ça à cause de l'étoile rouge.
Oui, mais des fois, le
Paris. Bah non, mais en même temps, si Liverpool avait gagné à Belgrade, ce serait mort ce soir.
C'est vrai. Bon. Oui, non, mais. Ah ouais.
Ça laisse des espoirs quand même.
Eh bien, il en reste.
Malcolm pour son premier ballon. Malcolm pour une frappe. Il est venu dynamiter cette attaque du Barça. Premier ballon. Handanovic avait tout repoussé. Mais peut-être qu'il ne connaissait pas encore Malcolm.
Eh oui, peut-être. Beaucoup de monde ne le connaissait pas, ce Malcolm, puisque c'était son première apparition en Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs avec quelques larmes qu'il a fêté son premier but sous les couleurs Blaugrana, le Brésilien, hier à Milan. Et le Barça a assuré... Alors, il a mené, puisqu'ils sont rattrapés dans les derniers instants par Mauro Icardi, hein, l'intenable argentin buteur et égalisateur en fin de partie. Mais le Barça a assuré sa place au prochain tour. Les Catalans ont dominé, mais... ça a été 26 tentatives de tir au but. Luis Suarez, qui n'était pas dans son meilleur jour, a tiré 9 fois, mais une seule frappe cadrée. Et ils ont joué surtout avec Ousmane Dembélé.
Ah, on y arrive.
Oui, voilà, on y arrive. Je regarde, Chérif, parce que Ousmane Dembélé, remplacé à la 80e minute d'ailleurs par Malcolm, bon, qui joue sans doute un peu de chance pour marquer immédiatement ce but, mais Dembélé n'a pas marqué. Et
un dribble
encore...
réussi sur 5, Dembélé.
Ouais, alors qu'il est quand même, c'est un match important, on l'a encore fait confiance, alors que bon, ces petits écarts.
Il y a pas mal de questions, effectivement.
Ouais, il y a des écarts de discipline qui commencent un peu à saouler un peu ses coéquipiers au Barça. J'ai l'impression qu'il a perdu son jeu. Je l'ai vu les fois que j'ai vu le Barça, on sent qu'il est pas dedans. On sent qu'il ne joue pas avec le reste de l'équipe. Ça, c'est plus ses dribbles ne passent plus.
C'est problématique.
Le coup de rein, il l'a plus. Donc voilà. Alors là, il se fait remplacer par Malcolm. Le gars, il rentre, il marque. Donc c'est au niveau du ressenti, du visuel. Il marque pas des points. Je pense que là, Dembélé, on va pas l'enterrer parce que c'est pas le but. Mais là, il est en train de perdre son football. Il est plus dedans. Et le problème, c'est que là, il va falloir s'accrocher là. Tout de suite, faut pas perdre pied, parce que ça, c'est un coup à passer sur le banc et d'y rester jusqu'à la fin de la saison.
Marc.
Il n'a pas l'exigence du haut niveau des très grands clubs pour l'instant, c'est malheureusement. Dortmund, il a déjà eu pas mal de problèmes aussi en interne. Ce week-end, face au Vallecano, victoire 3-2, il marque le deuxième but, il égalise. Il y a une scène surréaliste où il s'est retrouvé tout seul, quoi. Il fait ça, enfin, il est content, il marque, il n'y a personne autour.
Personne vient autour, oui.
Personne ne calcule. Alors, je veux bien qu'on me dise, Suarez marque le premier but, tout le monde saute dessus, et le troisième, tout le monde saute dessus. Lui, il est esselé. Quand on voit ce genre d'attitude sur un terrain, ah, c'est pas bon quand même. Franchement, c'est pas bon. Donc, il a tellement dû faire peut-être des bêtises en interne, ou il est tellement agacé tout le monde, que si on en est là, c'est pas top, quoi. Donc, il faut qu'il se remette dans le sens de la marche. Il a une chance inouïe de pouvoir évoluer à Barcelone. Barcelone, qu'on le veuille ou non, il faut pouvoir être au niveau des autres et pouvoir jouer pour les autres. Puisque, rappelez-vous, même Neymar s'était mis au diapason par rapport à Messi, Suarez. On a vu Messi à des moments qui laisse tirer Neymar ou qui l'a tiré Suarez pour pas que la star, il s'est adapté au jeu. Là, lui, le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Et s'il n'y arrive pas à Madrid, c'est un petit peu dommage.
Dominique, il n'y arrive pas Dembélé, mais est-ce que Malcolm, donc, peut mieux y arriver? Parce que finalement, bon, là, Messi, qui aurait pu jouer, malgré les problèmes de bras, finalement, Valverde a préféré en faire jouer d'autres. Et donc, on avait Dembélé, mais après on a eu Malcolm qui marque. Est-ce que ça peut apporter à ce joueur qui avait un peu menacé de partir si on le faisait pas jouer?
Alors, juste pour Dembélé, je pense que la greffe ne prend pas, mais c'est pas grave, ça peut arriver de ne pas s'imposer à Barcelone, c'est arrivé à d'autres, c'est très très
beaucoup
haut. C'est beaucoup de Français. C'est avant Thierry Henry et Julie.
Julie, c'est tout.
Beaucoup se sont voilà, Petit, Dugarry, Christian Val, Blanc. Voilà, il y a eu beaucoup de
Truelle,
beaucoup de joueurs qui sont jamais arrivés. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on peut pas réussir ailleurs. Je lui donnerai un conseil, c'est de pas insister. Il y a des mercatos qui sont faits pour ça. Il y en a tous les 6 mois. Et visiblement, son jeu n'est pas fait pour Barcelone. Il peut rendre des services dans d'autres grands clubs. Donc voilà, ça ne marche pas à Barcelone. Tant pis. Parce que là, vous le dites avec Malcolm, il est en train de... Bon, Alors, depuis que Neymar est parti, Barcelone a été complètement déstabilisé par ce transfert. Ils ont commencé par prendre Dembélé, après Coutinho, après Malcolm. Mmh. Bon, on voit bien que offensivement, ils savent pas quoi faire. Ils sont complètement traumatisés par le départ de Neymar. Ils ont essayé de le compenser en balançant les 222 millions d'euros reçus, en les balançant un peu sur tout le monde. Dembélé, sans savoir. Coutinho ensuite. Finalement, qui joue peut-être plus bas, Malcolm.
Non, continue, ouais, c'est pas un Neymar.
C'est pas un Neymar.
C'est quand même pas mal.
C'est mieux que Dembélé quand même.
Ça joue plus bas. Coutinho, c'est très bien. Le jeu de Neymar. C'est tout.
Et puis, pour moi, Malcolm, après, je l'ai vu jouer avec Bordeaux. Pour moi, c'est pas du niveau de Barcelone.
Mais après, c'est l'interrogation, effectivement, qui suscite.
Des buts. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est leur Choupo-Moting. Vous voyez, c'est un joueur qui est de complément.
C'est vraiment, puisque normalement, s'il y a Messi, c'est Coutinho et Suarez.
Oui,
donc,
sûr.
C'est leur Dembélé était le numéro 3 Messi, et lui était le 4. Maintenant, si le 4 passe au 3, et quand Messi sera pas là ou qu'il n'y aura pas un devant, ben, c'est peut-être lui, Malcolm, qui va jouer.
Les chiffres, c'est Eric.
Oui, pardon.
3-4. Non, allez-y.
Bon, voilà pour ce qui est donc de Barcelone, donc déjà qualifié. Alors, ils seront premiers ou deuxièmes du groupe, on ne le sait pas encore, mais ça sera sans doute avec l'Inter Milan et son super Mauro Icardi. Du côté des éliminés, quelques secondes, on s'arrête sur le cas Monaco.
C'est terrible, le mode punition enclenché par l'AS Monaco. Allez, c'est plus qu'une spirale négative en ce moment. On est en train de tomber dans un trou noir en 2 minutes.
Ah, ça fait beaucoup trop.
C'est dramatique là ce qui se passe sur la pelouse de Monaco. Est-ce que ça pouvait être pire que ce que l'on a vu? Oui.
Et voilà, ce club en grande difficulté déjà en championnat et aussi puni par les Belges du FC Bruges hier soir, Eric, 4-0.
4-0 à domicile. Alors apparemment, c'est la plus large défaite du club dans son histoire en Coupe d'Europe. 191 matchs joués, et là, c'est la plus grosse gamelle. La dernière, c'était 5-2 contre Dundee United en 1980. C'était également à domicile, c'était à l'époque la Coupe de l'UEFA. Mais bon, en même temps, on peut dire qu'on l'aura vu venir, celle-là. Mais celle-là fait particulièrement face à une équipe belge.
Si vous prenez 4-0 par le Real Madrid...
C'est autre chose.
Voilà.
Bruges qui n'avait pas gagné un match de Ligue des Champions depuis 2005. Mais en même temps, il ne la joue pas chaque année. Hein. Il ne la joue pas chaque année, donc il faut en relativiser un petit peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas un cadeau.
Eh ben, écoutons d'ailleurs l'entraîneur de cet ASM, à savoir Thierry Henry. Thierry Henry et ce constat d'impuissance.
La vérité est là. Tu ne mets pas tes occasions. Et eux, ils les mettent tout de suite. Et tu prends 3 buts en 12 minutes. Et le gros problème qu'on a, c'est à chaque fois qu'on prend un but à l'heure actuelle où il y a un truc qui ne va pas dans le match, on arrête de jouer. Et on baisse les bras. Et quand vous voyez l'entame de match, à aucun moment on se dit que ce match allait se terminer 4-0. Mais il s'est terminé 4-0. Mais encore une fois, c'était d'essayer de rechercher, je reviens encore sur la même chose, cette victoire et cette confiance. On ne l'a pas trouvé ce soir et peut-être même on a peut-être atteint encore plus notre morale. Mais il va falloir aller vers l'avant et on sait ce qui nous attend dimanche.
Et oui, ce qui les attend dimanche, c'est le Paris Saint-Germain en plus.
Ah, ça tombe bien.
C'est la cerise sur le gâteau.
Mais Marc, est-ce que l'effet, on parle souvent de cet effet que
cet électrochoc
que doit avoir théoriquement un changement d'entraîneur. Est-ce que Thierry Henry n'a pas réussi à le faire encore selon vous, ou est-ce que aussi le calendrier est complètement défavorable à prendre son temps finalement et à créer ce choc dans le vestiaire?
Pour l'instant, il est arrivé à rien du tout. Et rien n'a changé. On voit le cas de Vidalodzic, alors qu'Vidalodzic, c'est un petit peu différent parce qu'il a eu 15 jours pendant la trêve pour pouvoir faire travailler son groupe, alors qu'Henry récupère un groupe 3 jours après et joue à Strasbourg. Je pense qu'ils ont une poisse mais gigantesque. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que si on prend tous les matchs, il leur arrive un coup dur. Le week-end dernier, le week-end d'avant, c'est Chadli qui doit jouer, il se blesse.
En plus,
on prend l'exemple que il finit jamais. On va prendre l'exemple que si peut-être à Bruges, le jeune Silla qui marque son premier but, il rate le 2-0. On en parle différemment. Si hier le petit Diop, que je trouve très bon, a fait dans les 10 premières minutes, d'ailleurs la 6e et 8e, il a deux occasions, croyez-moi, en inverse. Et là, ils prennent ce but à la 12e, et à partir de là, mais ça s'écroule à une force. C'est-à-dire que les gars ne sont pas préparés. À Monaco, on n'est pas habitué à se dire, finalement, il va falloir qu'on s'arrache pour se sauver de la Ligue 2. Ils sont pas préparés. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils s'accrochent, qu'ils ont des grands joueurs, et que chaque fois, troisième. Et là, d'un coup, on doit leur dire, les gars, faites-vous mal. Et puis en plus, on met des jeunes joueurs, c'est pas leur faute. C'est dire que ces jeunes-là sont pas habitués à souffrir autant. Et le problème, c'est que hier, les cadres, alors Glick se blesse, parce qu'il y a encore, mais peut-être c'est le plus beau cadeau qui peut leur arriver. Non, mais je suis, c'est, Je suis pas méchant, mais Glick, c'est plus possible. Mm-hmm. Et il le met. Donc, quand même Henry. Quand je vois Henry débarquer, je me dis, bon, il est attaquant, il voit Glick qui va à peu près à 2,5 km à l'heure. Et encore, je pense que je peux aller plus vite.
Oui, mais
je vais l'écarter.
Mais
c'est pas possible.
Marc, c'était
là,
pas grave.
T'as pas le choix.
Marc, c'était pas
et tes cadres hier, pour finir, tes cadres t'ont lâché. Donc, si tes cadres te lâchent, Falcao qui sort, il est même pas énervé. Falcao, il sort, il check, ouais, tout va bien. Falcao qui sort sur un match comme ça, alors que c'est le patron, et il y a deux minots de 17 et 18 ans devant. Ah, le mal, il est plus profond. En tout cas, il va falloir vraiment se relever les manches et travailler dur.
Shérif.
17-18 ans, c'est un écart de pratiquement 15 ans avec Falcao, pratiquement. Ouais. Donc déjà, il y a quelque chose qui va pas. Mais ça, on le sait tous. De toute façon, quand Jardim
baisse les bras.
Oui, il a baissé les bras parce que voilà, c'est la quatrième saison. Ça
c'est
a été
la sensation que ça a donné.
La saison de trop. Thierry Henry, il est en train de découvrir
la réalité.
Et à la limite, on peut aller chercher Guardiola, Mourinho, mettez qui vous voulez à Monaco. De toute façon, jusqu'à la trêve, ça changera pas. Allez, on va essayer d'aller chercher un peu d'espoir
La trêve hivernale.
Non, sur ce qu'ils essayaient de développer. Après, il y a tellement de blessés aussi. Regarde, tu parlais de Poisse. Le seul joueur qui tenait encore un peu le ballon, c'est Golovin. Le gars, il se blesse aussi. Tu vois, ils ont plus rien.
Donc, ils ont un joueur cadre, blessé. 11.
Ronny Lopez. Les manieurs de ballon, ils sont pas là de toute façon. Et ceux qui reviennent de blessure, ceux qui sont blessés, tout. Au niveau des intentions, parce qu'évidemment que tu as raison, au bout d'un zéro, c'est fini. Ils ont la tête dans le sac. Voilà. Ils essayent quand même d'aller de l'avant, de construire. Il y a eu deux premières occasions avant qu'ils prennent le premier but. Donc voilà, on va s'accrocher à ça pour l'instant. Thierry Henry, pour l'instant, ne peut faire que ça. C'est-à-dire garder le ballon, essayer d'attaquer.
Essayer de trouver du positif.
C'est ce que disait Johan Cruyff. Quand vous êtes en difficulté, vous ne contrôlez plus rien, faites en sorte, de manière à vous rassurer, faites tourner le ballon, allez de l'avant. C'est le minimum que vous puissiez faire, mais faites-le. Bon, pour l'instant, ils le font.
Dominique.
Mais les buts ne viennent pas.
Non, je suis pas inquiet, moi, pour deux raisons. Je vous surprends. Allez, oui. J'aime bien quand je vous surprends. Parce que j'ai perdu ce que je voulais dire.
Vous êtes perturbés tous les deux. On va vous laisser. Au revoir.
Il y a le mercato d'hiver. Ça, c'est Monaco est très riche, j'allais dire une autre expression. Monaco est très très riche, même si son président est en garde à vue.
Ouais.
Il est très très riche et donc ils peuvent acheter des joueurs au mercato que peu d'équipes de France, 19e ou 20e de Ligue 1, peuvent s'offrir. Donc ça, je pense que ça
peut... C'était pas mal l'année dernière quand ils ont mis les moyens, sais, vraiment.
Et c'était que des Villas,
des Debuchy, des joueurs comme ça.
Non, c'est des bons choix.
Bien sûr, mais je pense que là, ils peuvent chercher encore plus fort. En plus, il y a la règle aujourd'hui de vous avez déjà joué la Ligue des Champions, vous pouvez venir, vous pouvez transférer. Donc ça, je pense que le carnet de chèques, parce que Monaco a fait des affaires ces dernières années, parce que les vrais responsables, c'est pas Jardim, c'est pas Thierry Henry, les vrais responsables, c'est les dirigeants.
Bien sûr.
Qui depuis des années font
directeurs sportifs.
Ils sont dans une,
font de l'achat-vente.
Ils sont dans une spéculation financière, ce qui les intéresse.
Du business.
Ouais. Donc au bout d'un moment, on le paie. C'est-à-dire que quand on avait une équipe qui était en demi-finale de la Ligue des Champions avec Mbappé, Falcao, tous ceux qu'on connaît, c'était il y a pas si longtemps, et champion de France, et que vous êtes en 2018, fin 2018, et que vous voyez des
tout
joueurs, soit on les connaît pas, soit ils sont en fin de cycle, comme les Camille Glick et compagnie. Les gardiens, on sait pas, j'ai toujours pas compris. L'autre, il est blessé, pas blessé.
Qui est qui?
Voilà, bon. Donc, à un moment donné, le foot, c'est une certaine logique. On peut pas tout expliquer.
Il y a une certaine forme
de logique. Et la deuxième raison, pour laquelle j'étais moins inquiet, c'est que Henry, c'est pas un magicien. Gérard Houllier, il dit, pour faire une équipe et pour la déconstruire, il faut 2 mois. 2 mois pour la construire, 2 mois pour la déconstruire, pour faire n'importe quoi. Là, ça fait moins d'un mois qu'il est là.
Mais là,
le temps de trouver des ressorts. Il commence par le plus dur, mais c'est un entraîneur, il l'a prouvé avec la Belgique, je pense qu'il va trouver des solutions.
Il est sous les projecteurs tous les 3 jours pratiquement.
Parce qu'il s'appelle
Thierry Henry. Lui, et parce que l'équipe joue, il n'est pas arrivé au moment d'une trêve.
Il a les épaules Thierry Henry, parce qu'il n'a pas entraîné de grande équipe.
Il commence par le plus dur, Eric, c'est là où on va voir...
On ne sait pas.
S'il les a ou pas.
On sait pas. Vous savez, Zidane, l'année dernière, il a gagné avec des champions, mais il n'a jamais retrouvé le fil de son équipe en championnat. Ce qui arrive aujourd'hui au Real Madrid, c'était déjà le cas avec Solari ou avec Lopetegui. C'était déjà le cas et personne n'en parlait parce qu'à la fin Zidane a gagné la Ligue des Champions mais il n'a jamais retrouvé le fil.
Du coup, le Real n'a pas été 19e au classement non plus.
Le Real n'a pas fait une saison conforme aux attentes des madridistes et
Très vite ils ont été un petit peu largués.
Là, il en est à 3 défaites et 2 nuls Thierry depuis son arrivée. Bon, mais effectivement, pour montrer que le mal est profond et que ça date pas d'hier, vous mentionnez la demi-finale de 2017 de Ligue des Champions, ce qui est pas rien. Depuis en Ligue des Champions, plus une seule victoire. 12 matchs d'affilée, 9 défaites, 3 nuls. Et cette saison, ils ont commencé la première journée de Liga par une victoire. Et depuis, pas une seule victoire. 15 matchs consécutifs sans le moindre succès. Donc effectivement, moralement, ça doit quand même sérieusement entamer. Maintenant, Thierry Henry va devoir essayer de regonfler un peu tout ça.
Qui est moral dans le foot, donc. Et quand on fait n'importe quoi, on le paye.
Voilà.
Et aux défaites, toujours. Les déboires, puisque depuis hier, vous y faisiez allusion, Dominique, le propriétaire de ce club, Dmitri Ribolovlev, est retenu à Nice par la police depuis plus de 24 heures. Et c'est dans le cadre d'une affaire d'escroquerie qui n'est pas
c'est directement... C'est la justice monégasque, je crois.
Lié au football, présumé... affaire d'escroquerie présumée qu'il oppose à son ancien marchand d'art suisse et
pour 1,5 milliard d'euros.
Jeu, voilà, c'est ce que j'allais dire. En jeu, une somme d'1,5 milliard d'euros.
Une somme qui nous arrive tous les jours.
Ils pourront acheter des joueurs.
Des Banksy, non c'est, ils ont acheté des Banksy avec ça.
On termine en évoquant l'Olympique Lyonnais.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
L'Olympique Lyonnais aux portes, qui sait, d'un huitième de finale de Ligue des Champions si l'équipe alors est dans un bonjour ou dans un bonsoir, on va
ça,
dire.
Ça, on sait jamais.
Voilà, l'OL
reçoit... Il y a quatre saisons dans un match de l'OL. Dans un match, dans un même match.
C'est Vivaldi.
Ouais, c'est ça, exactement. Dans un seul match, il y a quatre saisons.
Alors l'OL qui reçoit Hoffenheim 15 jours après avoir dû se conformer, on va dire, avec un match nul 3-3, cette égalisation en fin de partie, on s'en souvient. Un match donc que les Lyonnais auraient pu gagner et cette fois-ci... Eh bien, Bruno Genesio, l'entraîneur, pense qu'il faut gagner.
Pour nous, c'est comme si on jouait un 16e de finale, parce qu'on sait qu'en cas de victoire, on fera un grand pas vers la qualification, même si mathématiquement, rien ne sera définitif. Donc, c'est avec beaucoup de détermination et d'envie qu'on attend ce match devant notre public, parce que le match contre le Shakhtar était dans un contexte très particulier. Et je crois aussi parce qu'on doit... une revanche à notre public par rapport à ce qu'on a montré samedi.
Éric, Lyon, succès impératif parce qu'on s'en souvient, ils avaient bien commencé la saison en battant Manchester City.
Effectivement, dans ce groupe, là, cette quatrième journée est charnière, peut être charnière, parce que Manchester City est en tête avec 6 points devant Lyon 5, Hoffenheim et Donetsk sont derrière avec 2 points. C'est-à-dire que si Lyon bat Hoffenheim ce soir, ça ferait 6 points d'écart avec le club allemand. Donetsk joue à City. Si les Anglais s'imposent, là encore, le trou serait fait. On aurait City en tête largement, juste derrière, il y aurait Lyon. Et la qualification serait quasiment dans la poche pour l'équipe française. En revanche, s'il y a un mauvais résultat ce soir, ça peut rebattre totalement les cartes.
Chérie, vous parliez de 4 saisons en un match avec Lyon. C'est vrai que depuis le début de saison, ils peuvent faire le meilleur, c'est-à-dire, par exemple, aller battre City à domicile, là-bas, dans le nord de l'Angleterre, et puis chez eux, faire un match nul contre le Shakhtar, même si, on s'en souvient, c'était un match un peu spécial à huis clos.
C'est inexplicable. On a tous en mémoire le match qu'ils font à Manchester City, c'est maîtrisé d'un bout à l'autre. Tout est bon, c'est vraiment... tout le monde fait des efforts pour tout le monde. À partir du moment, mais ça, je suis pas le premier à le dire, on sait très bien que quand les affiches sont un peu moins prestigieuses, il y en a qui choisissent leur match. Après, il y a des trucs, moi, qui m'interrogent. La position de Depay en numéro 9, j'ai jamais été convaincu. Donc, j'ai l'impression qu'on continue d'aller sur cette option. Pour moi, elle est discutable. Là, on a très peu de temps, donc je vais m'arrêter.
Moi, j'espère qu'ils vont se qualifier, parce que le contexte est très malsain autour de Lyon à cause de l'anti-Genesio primaire des supporters. J'en ai parlé à des gens qui suivent le club. C'est vraiment infernal au quotidien.
Pour lui, tu parles.
Pour lui, ouais. Donc, j'espère qu'ils vont se qualifier. Clair. Voilà. Après, l'équipe, elle a des hauts, elle a des bas. Elle est aussi très jeune. Les joueurs brillants de cette équipe, c'est Ndombele, Aouar, c'est des joueurs très, très jeunes. Donc voilà, il y a des choses qui s'expliquent.
Mais ce qui est bizarre, peut-être, Marc, c'est qu'il n'y a pas véritablement... c'est pas moyen à cause des jeunes ou grâce aux jeunes et tout. Mmh. Ça peut être très bon.
C'est tout ou rien.
Ou plutôt
contre
mauvais.
Bordeaux,
c'est ça
Bordeaux,
qui est,
ce week-end, c'était
un
affreux.
Surprenant.
Mais à City, comme l'a dit Chérif, c'était fantastique.
Contre le Shakhtar, pareil. Il y a des périodes très, très fortes. Et puis la première mi-temps, c'est n'importe quoi.
Marc,
c'est très surprenant. Mais ce qu'évoque Dominique est important, puisque je pense qu'à l'intérieur du club, c'est beaucoup plus important le bordel qu'il peut y avoir, malheureusement. On prend l'exemple d'Ndombele qui a été catastrophique ce week-end, qui en a rien à faire, qui a fait preuve, il paraît, de condescendance maximum auprès de ses coéquipiers et tout. Donc si toutes les semaines, c'est un mec différent qui fait un petit peu le bordel dans le groupe, c'est compliqué.
Eh bien, on verra ça ce soir. À noter qu'il y a aussi d'autres matchs importants. Le Real Madrid qui va à Pilsen ou encore Manchester United qui va à Turin face à la Juventus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous dit à demain.
Bon, les comptes, on parle.